chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Normalement, vous devriez entendre la voix de notre cher ami François Devoyer, mais ce soir, c'est moi pour cette 21e édition. Consacrée à la nature, à l'écologie, au monde agricole et au patrimoine intitulé les pâturages du ciel. Ce doux nom de pâturage du ciel, vous le savez, rend hommage au merveilleux recueil de nouvelles de l'écrivain américain John Steinbeck. Dans une vallée de Californie où le ciel et la terre rivalisent de beauté, au rythme rassurant des saisons, des fermiers prospèrent et d'autres fermiers se ruinent et se déchirent. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux colons, la nature recule, dévorée par leur rapacité. Certains la protègent, d'autres la maltraitent. Cette émission a pour ambition chaque mois de vous conter un peu de cet accouplement aux allures de combat entre l'homme et la nature. Et pour m'accompagner ce soir de juin, j'ai le plaisir de me voir entouré de deux fidèles piliers de cette émission. Hervé Juvin, président des localistes et essayiste. Et Jacques de Guilbon, essayiste, écrivain et éditeur.
Bonsoir.
Au programme ce soir, un thème d'une banalité à pleurer, comme les guerres qu'il déclenche, le pétrole. Nous laisserons à d'autres le soin de proposer des pansements pour lutter contre le prix du litre à la pompe, pour nous attarder sur les causes plus profondes de cette crise, avec ce sentiment partagé, à mon avis, y compris sur ce plateau, que de la nommer crise reste un euphémisme. Mais avant tout, je pourrais détailler donc le déroulé afin de prendre un peu de recul. Nous intéresserons aux caractéristiques intrinsèques du pétrole dans un premier temps, comment cette énergie est devenue le pilier ou la drogue dure de la croissance de l'économie mondialisée, devant le gaz, le charbon et bien d'autres énergies. Nous nous pencherons ensuite sur cette dépendance à la constance du flux de pétrole, beaucoup plus qu'aux limites de ses réserves. Puis Hervé Juvin nous fera part de la relation inattendue entre politique pétrolière américaine et montée de l'islamisme radical depuis les années 50. Nous évoquerons également les répercussions du pétrole sur l'agriculture et ses rendements. Dans un deuxième temps, nous ferons un rapide tour d'horizon sur les énergies dites propres ou alternatives ainsi que leurs limites et surtout leurs zones d'ombre, aussi longues que celles des éoliennes géantes. Nous évoquerons aussi le nucléaire qui a droit à un retour en grâce que n'approuve pas totalement notre ami Jacques. Nous sommes impatients de l'entendre sur ce sujet. Et enfin, nous nous pencherons sur ce que chuchotent ces ruptures de flux de pétrole à répétition. Serait-ce le signe d'un retour forcé au local, au localisme? Nous spéculerons, j'espère, avec ferveur sur ces chemins étroits, à l'opposé du gigantisme de la nouvelle route de la soie, et terminerons par un thème associé au localisme qui m'est cher, la low-tech, un univers ignoré par les médias et le monde politique, contrairement à la high-tech omniprésente. Le tort de la low-tech serait-elle d'être inadaptée au marché? Mais avant d'entrer de plein pied dans le thème du jour, et pour rester fidèle à la tradition, je vous demande à chacun de nous faire part d'une découverte, observation ou indignation récente. À vous Hervé, que nous savons grand voyageur pour défendre le local, n'y voyons qu'un paradoxe fertile. Je suppose que votre dernier voyage vous a réservé quelques découvertes. Quelle est celle qui vous a le plus interpellé ?
J'y reviendrai sans doute. Le localisme est universel, puisque je sens dans tous les pays que j'ai la chance de traverser, certains avec lesquels j'ai l'occasion de travailler, une poussée de demande du local. La politique s'ancre dans la terre, et il n'y a pas de politique sans territoire, nous y reviendrons. Ce qui m'a frappé tout récemment, j'ai eu l'occasion de travailler en Thaïlande et au Cambodge, c'est l'extrême fragilité et notre extrême dépendance, quoi qu'on en dise, au pétrole et au gaz. J'étais là-bas après quelques jours ou quelques semaines d'intervention américaine en Iran, et très vite, deux choses se sont passées. Très vite, dans un pays comme l'Inde, aussi dans d'autres pays, ceux qui ne sont pas reliés à un réseau de distribution de gaz achètent des petites bonbonnes de gaz pour leurs besoins domestiques, et très vite, il n'y a plus de bonbonnes de gaz sur le marché. Ça veut dire que pour des millions d'habitants du sud-est asiatique, il est devenu impossible de faire cuire un repas, il est devenu impossible au restaurant de faire cuire de la viande ou du poisson, et chose peut-être plus grave encore, la chaîne du froid s'est interrompue. J'ai eu l'occasion à diverses périodes de ma vie, notamment à Madagascar, une période de rupture de fourniture d'électricité par la Jirama, dans quelques pays d'Afrique en situation de conflit interne, de vivre ce que signifie de ne plus avoir de chaîne du froid. C'est très simple. Au bout de deux ou trois jours, vous ne pouvez plus manger ni viande ni poisson, ni quoi que ce soit qui ait besoin de froid pour se conserver. Et j'ai éprouvé à cette occasion, dans un pays qui va bien par ailleurs comme la Thaïlande, dans un pays qui se développe, et d'ailleurs reste très fidèle à des liens avec la France comme le Cambodge, à quel point la dépendance au pétrole et au gaz était un sujet de faim, était un sujet de santé publique à travers le maintien de la chaîne du froid, et à quel point toute évolution forte des prix du pétrole, on avait monté de 30% en quelques jours, touche gravement la sécurité alimentaire et la sécurité tout simple des populations.
Merci beaucoup. Et je me tourne vers Jacques de Guilbon, qui ne manque jamais une occasion de penser contre les dominants.
Est-ce que je peux juste ajouter une découverte que j'ai faite récemment?
Je vous en prie. Qui rebondit
sur ce qu'a dit Hervé Juvin sur la question de la chaîne du froid. En fait, j'ai découvert qu'en Inde, depuis quelques années, voire décennies, ils possèdent des choses qui sont des réfrigérateurs en argile. C'est quelque chose que j'ai découvert très récemment, donc je suis totalement néophyte, naïf et ébahi par ça. Et semble-t-il, ça fonctionne. C'est de l'eau que vous mettez qui coule dans l'argile, en fait. Mais ça ressemble à des réfrigérateurs.
Oui, c'est
un
de
peu
la
comme les nôtres. Voilà, c'est ça, c'est de la low-tech. Et semble-t-il, il y a quelques ingénieurs indiens qui en ont fait une industrie et qui les vendent là-bas à des prix défiant toute concurrence. J'ai essayé de m'en procurer en France. J'ai pas réussi à en trouver pour l'instant, mais ça vaut 60 euros, en fait. Voilà. Et ces choses-là n'ont pas besoin d'électricité pour fonctionner, ni de gaz. Enfin, ça n'a pas tout à fait la performance d'un réfrigérateur tel qu'on l'a ici, et c'est pas non plus un congélateur, mais ça permet de conserver, je pense, pendant quelques jours, viande, choses comme ça. Voilà. Donc il y a des...
Il y a des solutions.
Il y a des solutions, semble-t-il. Enfin, voilà, je ne l'ai pas testé, mais ça semble, sur le papier, fonctionner. Donc voilà, c'était juste... Vous m'y faisiez penser avec...
C'est bien d'y revenir, nous allons parler de la low-tech.
Voilà. Oui, tout à fait. Mais
Moi, j'ai une indignation sur la question des déchets textiles en France, qui est une indignation que beaucoup de gens ont, mais il se trouve que je suis bénévole dans une association qui est un vestiaire, c'est-à-dire qu'on donne des vêtements à des personnes pauvres de la rue qui viennent chercher leurs vêtements. Et donc, on reçoit beaucoup de vêtements de gens, c'est une paroisse, en fait, voilà, qui viennent donner tous leurs vêtements. Et on le sait aujourd'hui que les Français et les Occidentaux ont une consommation de vêtements faramineuse aujourd'hui, de pièces de vêtements. Je ne sais pas combien il y en a par personne par an, c'est incroyable. Donc, notamment, tous ces vêtements qui sont fabriqués en Asie, dont on sait qu'ils sont plus recyclables. Donc, nous, on se retrouve avec des vêtements que certaines personnes ne veulent pas prendre, enfin bref, avec des tas de vêtements que même les personnes de la rue ne veulent pas prendre et qui sont impossibles à recycler. En tout cas, c'est-à-dire que la mairie de Paris est censée s'en occuper, venir les récupérer quand elle a des tas de vêtements. Elle ne le fait pas parce qu'elle est débordée elle-même. Et vous aviez ces points qui s'appellent les relais où vous pouviez déposer vos vêtements qui sont plus ou moins en train de mettre la clé sous la porte parce qu'ils sont eux-mêmes débordés par le nombre de vêtements qu'on leur donne, qu'avant on envoyait en Afrique, qui finissait sur des plages africaines à polluer à peu près
même
toutes les plages,
voilà,
mais même eux n'en veulent plus, intelligemment, parce qu'ils n'ont pas envie de se polluer. Et on manque de solutions actuellement pour recycler ces vêtements qui ne sont pas que du textile. Enfin,
c'est un flux de pétrole aussi.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, ce sont des mélanges et on ne sait pas trop comment les recycler. Et il y a une... On est en train d'agoniser, je pense, sur ce nombre de vêtements, notamment en Occident, en fait, voilà, que les gens achètent, mettent une fois et jettent.
Surtout que lorsqu'on parle de recyclage en matière de vêtements dérivés de pétrole,
on sait pas,
en fait, ce n'est pas du recyclage, c'est une utilisation par copeaux et qui peut servir de remplissage.
Oui, c'est ça.
Oui, alors on ne peut pas dire que ce soit vraiment très, très concluant. Et surtout, il y a un ou deux cycles et après, on ne sait absolument plus quoi en faire. Continuons par justement ce sujet, le vrai sujet de fond, donc le pétrole. Et ce que je propose, c'est dans un premier temps déjà de le définir, ou en tout cas de s'intéresser à ses valeurs intrinsèques, parce que on l'appréhende comme un véritable cadeau du ciel, mais plutôt empoisonné. Et quand on le compare justement au gaz, charbon, on a l'habitude quand même de le comparer à des énergies fossiles, il a une caractéristique absolument spectaculaire, c'est que lui peut voyager, et on se demande si c'est pas là le facteur clé de son succès, au-delà de ses qualités intrinsèques. Qui veut prendre la parole? Hervé, souhaitez-vous?
Je commencerai volontiers sur un ton un peu différent.
Je vous en prie.
Le développement économique, la croissance et la relative abondance dont nous avons bénéficié au cours, disons, du siècle et demi qui vient de s'écouler, c'est essentiellement du pétrole et du gaz. Je crois qu'il faut commencer par ça. Le pétrole et le gaz, ça arrive, disons, massivement dans le processus d'industrialisation assez tard. Et je pense que très peu d'entre nous avons conscience qu'une économie basée sur le pétrole et le gaz, donc une économie de croissance et de croissance forte, ça n'a pas beaucoup plus d'un siècle. Je vais raconter brièvement parce que c'est trop peu connu. L'histoire du pétrole en Iran, en Irak et dans toute cette région aujourd'hui est agitée de soubresauts politiques sur lesquels nous allons revenir. Vous avez un génie de l'investissement, il s'appelle William Knox Darcy. C'est un Australien qui a fait fortune dans les années 1880 en étant le seul à rester investir dans ce qui devait être un gisement d'or. Tous les autres investisseurs ont vendu, constatant qu'il n'y avait aucune découverte. Et il a découvert et exploité un des gisements d'or les plus riches du monde. Ce monsieur arrive à Londres, il se fait construire une propriété magnifique, un hôtel particulier, etc. Il mène grand train, mais il reste désireux d'investir. Et il va investir dans les premières années du XXe siècle, dans des conditions qui apparaissent inouïes, comme le fondateur de l'agence Reuters. Ils se font concéder par le pouvoir iranien la totalité des ressources minérales du pays, on va dire pour une poignée de cacahuètes. Le problème, c'est que ce n'est pas facile d'exploiter, et le problème, c'est qu'on ne trouve pas de pétrole. Et au bout d'un moment, les banquiers lâchent Knox Darcy. Il est obligé d'aller rencontrer l'un des banquiers les plus prestigieux de Londres, un banquier Rothschild qui exploite du pétrole, lui, mais du côté de ce qui serait aujourd'hui l'Azerbaïdjan, Bakou, etc. Ils investissent et ils continuent d'investir, alors que ça coûte très cher, ils ne trouvent rien. Miracle, ils tombent sur le gisement, l'un des plus grands gisements du monde, et ces personnes ont pratiquement le monopole de l'exploitation du pétrole sur les trois quarts du territoire iranien, sauf celui qui est trop proche de la Russie. C'est extraordinairement récent. Ça commence à produire en masse du pétrole dans les années 1920. On va avoir un krach du pétrole un peu plus tard parce qu'on découvre les puits du Mexique et on découvre surtout les puits du Venezuela. Fin des années 1920, années 1930. C'est extraordinairement récent. L'exploitation massive du pétrole, Churchill l'avait bien vu puisque Churchill a vu que fabriquer des bateaux pour la flotte britannique fonctionnant au pétrole, c'était leur assurer plus de rapidité, plus de distance à parcourir, et donc ça assurait à la flotte britannique la maîtrise du monde après la guerre 14-18. C'est tout à fait récent, et je pense que c'est utile de commencer par cela. Nous avons l'impression que le pétrole et le gaz, c'est à peu près depuis toujours. Absolument pas. Il n'y a pas un siècle qu'on ne les utilise de manière intensive, de manière efficace, et il faut le dire aussi qu'ils sont devenus le pivot et le pilier du développement des économies que l'on appelle développées.
Oui, oui, tout à fait. C'est Jacques, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, sur le ce qu'on sait en fait aujourd'hui du développement des Trente Glorieuses, enfin ce qu'on appelle les Trente Glorieuses en Occident, de la fin de la guerre jusqu'à 75, semble-t-il, au moins les deux tiers de la croissance sont dus au très bas coût du pétrole et du gaz, en fait. Quoi. Et c'est assez con, enfin on le constate évidemment à l'œil nu quand on voit les chocs pétroliers en fait qui interrompent immédiatement ces Trente Glorieuses en fait en 73-75. Et donc en fait le grand moment de l'Occident opulent, repu, société de consommation est dû, non mais vraiment à cette matière nouvelle, si on peut dire, enfin dont l'exploitation était nouvelle, que sont le pétrole et le gaz, à des très bas prix, à partir du moment où on avait une politique assez coloniale vis-à-vis des pays qui en étaient producteurs, enfin chez qui on allait extraire, comme vous l'avez raconté en fait, voilà. Et à partir du moment où ces pays se réveillent et s'inventent une politique économique énergétique, ça casse la croissance. Occidentale qui était quand même fondée en grande partie là-dessus. Quoi. Donc voilà, là on voit notre dépendance au pétrole, mais on n'arrive pas à s'en passer malgré le fait que les prix aient augmenté et ça continue encore aujourd'hui. Là-dessus, il y a aussi le mystère du pétrole de schiste, enfin, du gaz de schiste quoi, américain qui vient. Moi quand j'avais 20 ans, au début des années 2000, tous les gens que je lisais sur ces questions-là expliquaient qu'il y avait un pic de pétrole qui devait arriver. C'était des gens a priori ingénieurs, intelligents, qui étaient souvent décroissants aussi, qui souhaitaient
qu'il arrive. Et qui fixait 2008 d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça, 2008. Et curieusement, il n'est pas arrivé en fait, ce pic de pétrole. Enfin, le pic de pétrole conventionnel est arrivé, mais ça a été immédiatement remplacé par le pétrole de schiste. Si je dis des erreurs, on va interrompre.
Non, c'est parce qu'il y a une stagnation depuis 2008. En termes de quantité, on n'est pas dans une augmentation fantastique.
Il n'y a pas de chute et on arrive encore. Notamment les Américains, Canada et États-Unis ont réussi à se refaire là-dessus, à être moins dépendants que nous sur l'extraction du pétrole du Proche-Orient. Et ont réussi à maintenir en fait,
C'est
l'exploitation du pétrole. En fait, il y a pas de baisse, il y a pas de chute que je sache en fait quoi pour l'instant.
Hervé.
Oui. Ce que l'on pourrait dire, c'est qu'il y a surabondance de pétrole cher. Le peak oil. Et là, j'en veux un peu aux verts, aux écologistes de la panique et de la peur. En agitant l'idée du peak oil, ça date d'il y a très longtemps, hein,
oui, depuis, 70,
le Club de Rome,
oui, ça,
depuis
oui.
le Club
oui.
de Rome, mm. ensuite les différentes réunions, y compris l'accord de Paris, etc. Le peak oil, on en parle beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que si on est capable d'aller chercher le pétrole au fond des océans et le gaz, si on est capable d'aller chercher partout du pétrole et du gaz de schiste, je signale d'ailleurs, face aux prochaines échéances électorales françaises, qu'on aura probablement de nouveau une très forte pression pour ouvrir les régions riches en pétrole ou en gaz de schiste, je pense notamment au Massif central, à l'exploitation. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation du pétrole et du gaz de schiste en France. Je pense de nouveau qu'on va avoir un très fort débat à ce sujet. Ça serait d'ailleurs intéressant d'en discuter.
Et semble-t-il, l'Assemblée nationale vient de refuser de l'exploitation en Outre-mer, en Guyane, c'est ça notamment.
En Guyane, oui. Tout à fait. Ça sera intéressant de voir comment ce débat va se nouer. Mais pour abonder dans votre sens, il y a abondance et probablement beaucoup à découvrir en pétrole cher. Le problème, c'est le coût d'exploitation. Le coût d'exploitation, y compris du pétrole bitumineux, du pétrole très lourd au Venezuela, il est considérable. Et les effets de pollution du raffinage de ce pétrole sont également absolument dramatiques pour l'environnement.
Alors, ça nécessite en plus un prix du baril particulièrement élevé. Et pour donner une idée de l'échelle, au début du siècle, début du XXe siècle, pour tirer 100 litres de pétrole, on consommait à peu près 1 litre. Aujourd'hui, pour 3 litres de pétrole exploité, on est sur une consommation d'un litre.
Ah ouais.
Donc,
oui,
sur
par 30, ouais. en fait.
Le pétrole de schiste est extrêmement énergivore, rien que pour son extraction.
Sans compter toutes les conséquences environnementales sur la pollution des sols, etc.
Mais c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur justement cette limite, puisqu'on a dopé aussi, je pense aux pays de l'OPEP au début des années 80, qui très volontairement réduisaient leur production de pétrole ou limitaient la production de pétrole en fonction des réserves officielles.
Oui.
Ce qui a encouragé les pays donc, de l'OPEP à doper leur prévision de réserve. Même pas de leur plutôt, oui, à gonfler les chiffres de réserve, simplement pour avoir le droit d'en extraire encore plus, puisqu'il y avait une proportion qui était établie entre réserve et droit d'exploitation. Donc ça illustre, je trouve, assez bien les limites aussi de la ressource pétrolière, qui inexorablement, je trouve, à travers cette crise, et c'est pour ça que je commençais par dire que c'était non pas une crise, ou en tout cas, quand on l'appelait une crise, c'était presque un euphémisme rassurant, puisqu'on a l'impression qu'il y a une convergence entre une rupture de flux et également un manque de ressources immédiates, ou en tout cas, on est à fond dessus, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut justement enchaîner sur cet impératif de flux, qui est beaucoup plus en réalité ce qui s'impose au présent que cette abondance de pétrole, ou en tout cas cet horizon pétrolier à long terme. En tout cas, je vous laisse peut-être prendre la parole, Hervé, sur cette...
Alors, je suis très prudent sur ce sujet, parce que j'ai été assez proche des marchés financiers ou des marchés de matières premières pendant pas mal de décennies. Tout le monde s'est toujours trompé sur l'évolution des prix du pétrole. Je peux vous montrer les meilleurs, y compris les analyses de Goldman Sachs, qui sont quand même parmi les gens dans le monde qui savent beaucoup de choses. Beaucoup ont prédit le pétrole à 180 à 200 dollars le baril. Et à peu près personne n'avait prévu une période relativement récente où on était descendu autour de 60 dollars le baril.
Tout à fait, oui.
Donc les prévisions en la matière sont extraordinairement risquées, je ne m'y livrerai pas. Ce que je dirais, c'est probablement deux ou trois choses qui me paraissent importantes, surtout dans ce cadre de débat sur l'écologie, les ressources rares, les limites. Un, contrairement à ce qui a souvent été dit, notamment dans les politiques de transition énergétique, j'ai entendu ça maintes fois au Parlement européen, j'entends encore au Conseil régional, c'est on va remplacer une énergie par une autre. Ça ne marche pas comme ça. On ajoute les énergies. Quand on développe du renouvelable, quand on développe du nucléaire, on ne réduit pas dans les mêmes proportions la dépendance au gaz et au pétrole. On a besoin toujours de plus d'énergie. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Une énergie ne se substitue pas à une autre, elle s'ajoute à une autre. La deuxième chose...
Ça dépend des politiques qu'on veut mener, mais de manière naturelle, vous avez raison.
Oui, aujourd'hui, c'est le cas. Ouais, ouais. La deuxième chose qui est très intéressante dans le cas du pétrole et du gaz, parce que n'oublions pas, bien sûr, on va critiquer leur usage ou les abus de leur usage, mais c'est extraordinairement pratique. Il y a peu d'énergie qui offre autant de facilité d'usage, de tels rendements et une telle simplicité d'utilisation. Je dis cela parce que les économistes ont beaucoup travaillé sur le paradoxe de Jevons. On pourrait s'imaginer qu'à partir du moment où on utilise toujours mieux le pétrole et le gaz, on en utilise moins. C'est absolument pas le cas. Plus on a des moteurs performants, plus on a des solutions performantes, plus on utilise d'énergie. Et c'est intéressant de le voir parce qu'on est dans le plus, qu'on le veuille ou non. Alors j'entends l'énergie la meilleure, c'est celle qu'on économise, etc. Oui, mais il reste que nos sociétés sont toujours dans le plus. Ça me paraît quand même quelque chose d'important. L'autre élément qui me semble important, mais là on va toucher au débat géopolitique actuel, c'est qu'il est très difficile aux pays développés, contrairement à ce qu'ils ont cru pouvoir imposer jusqu'au début des années 20, il est maintenant extrêmement difficile d'imposer à un pays comme l'Inde de limiter son recours à l'énergie, sachant que l'Inde n'a absolument rien participé à la pollution, aux émissions de CO2, etc., depuis le début de son histoire. Et ça, c'est une nouvelle donne qui, me paraît-il, va peser d'un poids très lourd dans toutes les négociations sur le climat, sur l'utilisation des ressources énergétiques. Dans la décennie qui vient, nous sommes à l'aube d'une seconde décolonisation, et la seconde décolonisation se traduit notamment par le fait que des pays comme l'Inde ou les pays africains disent « Nous, on n'en a rien à faire de vos limitations. Si on a du pétrole et du gaz sur notre territoire, y compris pétrole et gaz de schiste, on a le droit de les utiliser, parce que regardez-vous votre histoire depuis un siècle et demi. »
Alors, je pense évidemment, en vous entendant, à la Chine.
Oui, je pensais aussi, oui.
Qui n'a pas vraiment cette politique de revanche, et qui, en réalité, est à marche forcée vers une transition plus vers l'électrique, si je ne m'abuse.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La capacité de production totale d'électricité de la Chine est de l'ordre de 3 800 milliards de mégawatts. La production des États-Unis, la capacité de production des États-Unis étant seulement de 1 600. Dans ce total chinois de 3 800, 1 800 proviennent des renouvelables. Proviennent du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, avec l'emblématique barrage des Trois Gorges. Oui. Ils sont en train de nouveau de construire un barrage à peu près des mêmes capacités. Ce qu'il faut souligner ici, et je pense que c'est très important, parce que j'entends souvent des choses qui me hérissent un peu sur la Chine, qui effectivement continue encore un peu à utiliser du charbon, c'est que la capacité de production énergétique de la Chine en énergie renouvelable est supérieure à la capacité de production des États-Unis.
Oui, ce qui est...
Il faut voir à quel point, c'est par hasard, ils produisent 90% des panneaux solaires, 70% des éoliennes dans le monde. Mais cette transition de la Chine, elle est passée un peu inaperçue, et c'est un phénomène d'une importance géopolitique absolument considérable. Je rigole quand on dit que la Chine est tellement dépendante du pétrole.
C'est ça, mais je pense qu'à peu près tout ce qui se passe en Chine passe inaperçu pour les incultes occidentaux que nous sommes. On l'avait vu récemment, vous savez, quand quelqu'un a demandé sur un plateau de citer le nom de 3 Chinois vivants, et que personne n'en avait. Je sais d'ailleurs si enfin, vous en avez, je pense.
Ah non, ne faites pas le test.
Moi,
je
suis pas sûr d'en avoir 3 non plus, en fait. Voilà.
À part Xi Jinping.
Voilà, donc on est totalement aveugle à ce qui se passe là-bas, je pense. Et évidemment, je pense que pour la Chine, c'est aussi très intelligent de se montrer ou de se déployer comme le leader de la transition écologique quand les États-Unis sont arriérés avec Donald Trump.
Et voilà, c'est ça. Avec le retrait de l'accord de Paris, la Chine l'apprend.
Et que pendant ce temps, Donald Trump dit « drill, baby drill », etc. Enfin, il est très fier de son pétrole, de son gaz de schiste. Donc je pense qu'ils ont tout à fait raison là-dessus, en tout cas, d'aller sur cette question-là. Enfin, raison d'un point de vue de la mise en avant de leur pays et d'un point de vue aussi écologique, je pense. Hein, voilà.
Enfin, d'un point de vue d'autonomie.
En plus, oui, évidemment.
Oui, mais surtout, il y a un pragmatisme qui est très ancré dans une réalité, c'est qu'on peut tenir compte aussi de la limite du pétrole, même si aujourd'hui le flux de pétrole est relativement... il est aujourd'hui contrarié en fait par un phénomène géopolitique que l'on peut penser non pas lié aux ressources, mais simplement à une question de circulation. Et c'est peut-être aussi c'est ce que je voulais mettre aussi en relief. Au début de cette émission, pour parler du pétrole, contrairement au charbon, c'est que le pétrole, c'est l'énergie star du voyage.
Bien sûr.
C'est contrairement au charbon, c'est peut-être une évidence sur ce plateau, mais c'est vrai que le charbon a toujours été une énergie domestique. L'industrie, d'ailleurs, en France, s'est d'abord installée près des mines de charbon. Donc, on était proche de l'énergie, d'une énergie qui... en réalité n'a pas du tout le même rendement lorsqu'on le, on veut la faire voyager, alors qu'effectivement c'est totalement dérisoire avec le pétrole, d'où cette,
le pétrole, c'est l'énergie de la mondialisation.
C'est l'énergie de la mondialisation, exactement. Et c'est,
pas de porte-container sans pétrole, etc.
Oui, c'est tout à fait. Alors le justement,
on, et c'est paradoxalement là, on la voit avec le détroit d'Ormuz, en fait, ce qui est aussi le plus lié à la terre et à la géopolitique. En fait, là, c'est-à-dire qu'il suffit de bloquer un petit détroit qui est minable dans le ce qui représente dans la géographie du monde pour paralyser une partie de cette exploitation. En fait, et ça, c'est assez fascinant.
Mais
je pense que c'est important par rapport aux perspectives que vous êtes en train d'ouvrir en introduction. C'est important de refaire un peu d'histoire parce que je pense que c'est éclairant, y compris pour ce qui se passe aujourd'hui au détroit d'Ormuz. Je vous ai rappelé l'histoire du début de l'exploitation du pétrole en Iran. 90% des bénéfices vont à une société anglaise, britannique, qui va devenir la British Petroleum. Peu à peu, les Américains mettent le pied dans la porte. Et il faut savoir qu'à ce moment, dans le plus grand site de raffinage de pétrole d'Iran, il n'y a pas plus d'électricité dans la ville que dans une seule rue d'une ville britannique. Il y a une seule école qui forme des Iraniens de niveau un peu développé. Les Britanniques n'ont investi dans aucune école, aucune infrastructure. Ils ont seulement investi dans les moyens de tirer le maximum du pétrole du sol. C'est la même chose en Irak, de manière probablement encore plus violente. Il n'y a pas eu un sou consacré à l'équipement du pays. Tout l'argent part pour la British Petroleum et ensuite pour la Standard, etc., les sociétés américaines. C'est vrai à tel point que quand il commence à y avoir des nationalisations ou des demandes de nationalisation en Irak, c'est très simple, on renverse le régime. Quand l'Iran nationalise le pétrole et le gaz, c'est le régime de Mossadegh. Il est renversé par un coup d'État organisé de manière conjointe par les services britanniques et par les services américains. Je pense que ça pèse lourd dans ce qui se passe aujourd'hui. Ces peuples, ces grands pays, ces grandes civilisations que sont notamment les Perses, n'ont pas oublié, j'ai envie de dire, la spoliation et le pillage de leurs réserves pendant presque un siècle. Je pense que ça pèse très lourd dans la situation actuelle que nous vivons, et je vais le répéter d'un mot, je déplore que j'entende si peu en France parler du mouvement de seconde décolonisation. Le mouvement de seconde décolonisation, on le voit aussi aujourd'hui dans la prise de contrôle du détroit d'Ormuz partagé entre Oman et l'Iran qui est en train de se dessiner. Ça, c'est le mouvement de seconde décolonisation, nous n'avons pas fini d'y être confrontés.
Oui, mais c'est justement très intéressant de rendre, de poser des mots sur un phénomène et de le résumer, parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'entends ce terme.
Si j'ajoute à ce mouvement de seconde décolonisation, j'ai quelques interlocuteurs dans cette région du monde que j'ai eu l'occasion de fréquenter. Syrie, Irak, etc. Ce qui est très clair, c'est que les universitaires, les dirigeants politiques, les militaires n'ont pas oublié autre chose. Est-ce que vous savez ce que sont les parties basses? Les parties basses, c'était des parties laïques, c'était des parties socialistes ou socialisants, certes autoritaires, qui voulaient réussir la transition de société relativement féodale, primitive, exploitée jusqu'à la lie par les puissances coloniales, en société, disons, développée. Le régime basse, c'était l'Irak de Saddam Hussein, c'était en partie la Syrie, c'était surtout l'Égypte après Nasser et quelques autres pays musulmans. Quand j'entends dire « Oh, ces pauvres musulmans, ils ont raté leur modernisation. Comment se fait-il que l'islam soit resté arriéré et fondamental ?» Ben, regardez ce que l'Occident a fait. Regardez les interventions qui systématiquement ont détruit tous les régimes socialistes. Rappelez-vous Tariq Aziz, ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein, qui était un chrétien. Rappelez-vous que sous Saddam Hussein, les minorités catholiques chrétiennes n'étaient absolument pas persécutées. Et j'ai eu l'occasion d'aller moi-même à la messe dans plusieurs lieux de Syrie, où aujourd'hui je suis persuadé que les églises sont détruites, ou en tout cas que les communautés chrétiennes ont été détruites. Il faut se rappeler de cette histoire, parce que je pense qu'elle éclaire beaucoup la situation actuelle.
Ah oui, mais c'est particulièrement vrai à partir des années 50. Il y a ce fameux exemple, je vous laisse citer, donc d'un changement de régime, parce que justement, privatisation du...
C'est en Irak et c'est ensuite Mossadegh en Iran qui a laissé une grande mémoire en Iran.
Oui, c'est et en fait,
et ce sont les interventions récentes et catastrophiques des Américains en Irak, évidemment en Syrie et ailleurs, qui ont détruit des régimes laïques à prétention sociale ou socialisante. Et regardez ce qui arrive aujourd'hui. Je dirais la même chose évidemment de la Libye, qui avait le plus fort niveau de vie du continent africain.
Oui, et alors là, c'est
là pour le coup, la France est complice pour la Libye, quoi. Ce qui n'est pas le cas pour les autres guerres là-bas.
Totalement, ouais. Oui. C'est une fabrication française sous Sarkozy, évidemment, dont tout le monde se souvient. Alors là, justement, c'est particulièrement intéressant de voir à quel point le pétrole a eu cette incidence funeste. Je suis très heureux, justement, que l'on évoque ce lien entre politique pétrolière et montée de l'islam, de l'islamisme radical, pardon. On pourrait quand même évoquer cet horizon après-pétrole, les énergies dites propres, et qui, là encore, ont leur pardon, je pense naturellement aux éoliennes, qui ne sont pas, disons, indépendantes d'une politique des gaziers. Alors je ne sais pas si Jacques, est-ce que vous voulez justement un peu, comment dirais-je, épiloguer sur ce thème-là ?
Pas indépendantes, vous voulez dire dans le sens où elles sont...
Elles sont pilotées, en réalité, je peux développer moi-même, c'est-à-dire qu'on y envisage ces énergies alternatives qui en réalité ont une faiblesse structurelle, c'est leur taux de charge. Alors, je pense qu'il est important de définir ce qu'est un taux de charge, c'est tout simplement la comparaison entre le fonctionnement effectif d'une éolienne, en l'occurrence, et sa capacité maximale de production théorique, puisqu'on la compare à un fonctionnement à 100%, ce qui n'arrive évidemment jamais. C'est comme ça qu'on peut établir un pourcentage qui, dans le cas des éoliennes, nous donne un taux de charge de un peu plus de 20%, 21,3% exactement, c'est-à-dire qu'une éolienne va fonctionner un jour sur cinq, et une énergie non pilotable. Et derrière, en réalité, ce parti pris, on se rend compte que les éoliennes ne sont absolument pas une énergie qui est indépendante des gaziers.
Oui, j'ajoute pour la comparaison et pour nos auditeurs que le taux de charge d'une centrale nucléaire, c'est généralement de l'ordre de 75%, ce qui oui. situe quand même la différence.
Oui, mais justement, c'est pour ça que ces énergies alternatives... Alors, je vois à titre personnel une star incontestée qui serait l'hydrolien et qui, bizarrement, ne fait pas l'objet d'une véritable promotion, surtout en ce qui concerne le petit hydrolien. On l'envisage toujours comme à travers le gigantisme. On a évidemment de nombreux exemples de barrages très performants et qui ont été créés tout au long des Trente Glorieuses, justement à la fin des Trente Glorieuses, où on a une véritable politique de barrages. Et aujourd'hui, on a plus tendance à les effacer, des petits barrages locaux. Et ça, je trouve ça...
Les agences de l'eau sévissent.
Oui, mais on se demande si les agences de l'eau ne sont pas le bras visible, ou en tout cas le prétexte écologique, derrière lequel, en réalité, agit des forces beaucoup plus prégnantes et qui sont beaucoup plus signées traditionnelles, je dirais. Alors, il y a le nucléaire qui, effectivement, à un moment, luttait contre ces barrages, en tout cas comme une forme de concurrence. On le voit aujourd'hui dans... Et que pensez-vous, vous, des énergies alternatives, justement ? Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Moi, j'ai tendance à penser que c'est vraiment l'avenir, en fait, pour le monde et la France, notamment. Et l'exemple de la Chine n'est pas inintéressant là-dessus. C'est-à-dire qu'une volonté politique fait qu'on peut arriver à développer réellement ces... Enfin, là, si on parle de solaire, éolien et hydraulique, j'imagine. On ne parle pas du nucléaire, là. Enfin, je ne sais pas.
Si on parle aussi
du nucléaire, oui, parce que c'est toujours compliqué.
C'est-à-dire qu'il y a...
Le nucléaire là-dedans, mais... Par exemple, l'éolien en France, en Europe, c'est 95 ou presque 100% de l'éolien est fabriqué. Enfin, ce sont des matériaux qui sont fabriqués en Europe, en fait. Donc là, il y a une certaine indépendance là-dessus, en fait, contrairement au solaire, dont on nous dit qu'il est fabriqué en Chine, que ce sont des importations. Mais l'éolien, on pourrait le développer tout seul ici, et ce serait une énergie qui est renouvelable, évidemment, qui est propre, et qui est en France, en fait, est assez bien exposée. Pour que ça fonctionne le plus possible. En fait, on pourrait, en doublant l'éolien et notamment en mettant de l'éolien maritime aussi, je pense que on serait sur une voie qui nous permettrait de sortir de la dépendance au pétrole et au gaz, etc. Et c'est pas du tout quelque chose qui est impossible. Il y a des pays en Europe qui notamment en Autriche, en fait, qui arrivent à se...
Par contre, quand on voit l'Allemagne, on a l'impression que c'est l'impasse.
Oui, non, l'Allemagne, c'est une politique qui est quand même très, très compliquée, très chaotique et très, très idéologique, dans les deux sens, en fait. Donc, je pense qu'ils ne sont pas sortis de la même façon. Mais l'Autriche, qui est un petit pays, c'est un pays qui a interdit le nucléaire, en fait, totalement. Il ne peut pas y avoir de nucléaire, en fait. Et ils sont quasiment... Enfin, certaines régions d'Autriche sont indépendantes énergétiquement de tout nucléaire, grâce à leur barrage en grande partie, mais aussi grâce à l'éolien et au solaire. Donc ce sont des exemples qui sont petits, c'est des petites régions, mais ça prouve que c'est possible en fait. Et après ce sont des régions de montagne, donc forcément l'hydraulique est plus simple, mais je pense qu'une volonté politique fait qu'on pourrait sortir et des énergies hydrocarbures et d'une grande dépendance au nucléaire qui est... Voilà, on va revenir peut-être plus tard sur le nucléaire.
C'est vrai que là, ça établit... Enfin, j'ai tendance à établir une vraie hiérarchie, hein, me disant que l'hydrolien, effectivement, ne présente pas d'inconvénients dans la mesure où il n'y a pas de pollution et c'est pilotable et avec un taux de charge qui est très important. C'est-à-dire le comparable peut-être même au nucléaire.
On est en tout cas au-dessus de 60%.
Oui, au-dessus de 60%. Alors que ça n'est pas du tout le cas du solaire et de l'éolien pour des raisons absolument évidentes. Et on a l'impression que justement le critère d'adoption de ces énergies renouvelables, qui sont même devenues presque un logo, c'est-à-dire que quand on voit une éolienne, on a l'impression qu'on parle d'énergie renouvelable et de quelque chose qui va remplacer le gaz, alors qu'en réalité, enfin, parce que je pense justement aux gaziers comme étant les grands promoteurs de l'éolien, paradoxalement. Hervé, Julien, avez-vous...
Je vais me permettre de faire un peu de localisme. Le localisme prend en compte les territoires, et je crois qu'il y a quelque chose qui est important de partager. Quand nous parlons de pays qui font 4 millions de kilomètres carrés, quand nous parlons de pays, je n'évoque même pas la Russie avec ses presque 20 millions de kilomètres carrés, nous ne parlons pas du jardin qu'est la France. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un certain nombre de régions que j'ai eu la chance de traverser, que ce soit aux États-Unis, qui sont pratiquement des déserts, enfin ces immenses étendues qui vont de la Californie à Las Vegas par exemple, où on peut rouler pendant 3 heures sans rien voir et dans un quasi-désert plat, je ne vois pas d'énormes problèmes à implanter des éoliennes. Je dirais la même chose dans le Xinjiang, la région à l'extrême ouest de la Chine, où on a probablement les plus grands parcs solaires du monde, dans ce qui était des déserts. Je ne vois pas beaucoup les problèmes de les implanter là. Je vois les problèmes d'implanter l'équivalent au Lozère ou évidemment au long des côtes bretonnes, où ça provoque, et à juste titre, beaucoup d'opposition des communautés locales. Je crois que c'est important de se rendre compte que nos territoires ne sont pas les mêmes. Les immenses nations, continents que sont la Chine, les États-Unis, le Brésil, la Russie, etc., n'ont absolument pas les mêmes contraintes que celles de ce jardin qu'est la France. Avec quand même un atout considérable, notre première industrie, c'est le tourisme. Il faut quand même y faire un petit peu attention. Le deuxième point qui me vient à l'esprit en vous entendant, n'oublions pas la tradition française de la centralisation et l'amour français du grand. Quand vous parlez des micro-centrales qui, à un moment donné, s'étaient développées, quand je pense aux mini-éoliennes, j'ai eu l'occasion de les découvrir à Madagascar ou au Mozambique. Madagascar ou au Mozambique, vous avez beaucoup de coins, vous n'avez pas d'électricité. Et vous vous dites, mais comment ça marche? Ils ont quand même un réfrigérateur, ils ont quand même, etc. Vous avez des micro-éoliennes. Ce sont des éoliennes qui peuvent faire 8, pas beaucoup plus d'ailleurs, 6-8 mètres de haut. Les pales tournent, surtout quand on est dans des régions maritimes pas très loin de la mer. Il y a du vent. Le long du golfe du Mozambique, il y a même beaucoup de vent. Donc ça fonctionne. Je trouve que ça n'est pas très polluant pour le paysage, parce qu'un ressaut de paysage ou un arbre un peu élevé, ben ça les cache. La France n'a absolument pas choisi et la France n'a pas voulu aller dans cette voie. Je crois que c'est important d'intégrer ça. La France aime les éoliennes dont les pales montent à 200 mètres de haut, qui vont plus vite qu'un TGV, etc., etc. La France aime le gros. Et rappelez-vous quand même qu'il est interdit, ou à peu près interdit encore récemment, de créer vous-même votre électricité pour vos propres besoins, vous devez vendre votre électricité à EDF qui va vous la revendre.
Oui.
Ce qui semble complètement aberrant à nombre de pays. Quand j'explique cela à nombre de pays, par exemple au Cambodge, ils me regardent en disant comment est-ce possible. Vous produisez vous-même votre énergie avec votre micro-centrale, vous produisez vous-même votre énergie, encore que c'est compliqué, avec votre propre éolienne, vous devez vous raccorder au réseau. Ça, c'est la tradition française de centralisation et de contrôle, qui va tellement bien avec le nucléaire.
Voilà, oui.
C'est une des grandes limites, et on va retomber sur le sujet du low-tech, c'est, me semble-t-il, une grande limite au développement des énergies renouvelables en France. Parce qu'il est réel que dans un certain nombre de pays, et notamment en Afrique, ils ont trouvé des solutions relativement innovantes, les mini-éoliennes, les panneaux solaires pour tout, y compris simplement pour recharger votre portable à la sortie de la maison. Ça fonctionne, ça assure une relative autonomie et une certaine sécurité énergétique. Et ça, en France, on s'est interdit cette voie-là. Je pense qu'il y aurait à repenser la question.
Oui, oui, mais c'est, mais j'approuve totalement justement cette cette fascination que Philippe Bouix traduisait par le syndrome de la fusée, c'est-à-dire la société qui admire ce qui est, alors là en l'occurrence complexe, mais pas ce qui est discrètement efficace. Et effectivement, la production locale d'électricité, j'y crois beaucoup. Enfin, je crois beaucoup à la production locale et la consommation alliée à une consommation locale d'électricité et qui n'est absolument pas encouragé effectivement par une administration française absurde.
Et du contrôle de tout.
Oui, mais alors en plus qui, je dirais, achète à un prix complètement dopé une électricité qui finalement, ce sont des systèmes, ou en tout cas des encouragements qui créent des effets d'aubaine au lieu d'adoption profonde.
Pour les éoliennes, les effets d'aubaine ont été multiples. Quelques-unes des fortunes les plus rapidement constituées en France au cours des 20 à 25 dernières années l'ont été par des gens qui ont su habilement créer des parcs d'éoliennes. C'est assez bien connu. Ah oui. Et un certain nombre d'entreprises ont bénéficié de manière absolument exorbitante des prix garantis d'achat que EDF est obligé de consentir aux gens qui produisent de l'électricité, de l'énergie par les éoliennes. On pourrait dire qu'il y a eu un racket sur des fonds publics.
Oui, alors d'autant plus que les éoliennes doivent toujours être capées par justement une énergie pilotable et qu'en l'occurrence, l'énergie la plus performante en matière d'immédiateté, c'est le gaz. Et c'est pour ça que là, la boucle est bouclée, on se retrouve avec des gaziers qui font la promotion d'éoliennes, avec en prime un abonnement, ou en tout cas, je ne sais pas comment l'appeler, mais disons que ce service rendu ou cette sécurité qu'assurent les centrales au gaz pour prendre le relais des éoliennes finissent par être un mode de revenu également sans même consommer de gaz.
Je permets d'aller plus loin avec l'abomination de la désolation qui est le fait que Energiewende, cette pure catastrophe allemande, a obligé l'Allemagne à réouvrir des centrales fonctionnant au lignite, qui est probablement la forme de combustible charbon la plus polluante au monde, tout simplement pour pallier les insuffisances ou les alternances des éoliennes et du solaire. Là, on est dans l'aberration totale. Oui, oui. Au nom des énergies renouvelables, on recrée les processus les plus polluants qui existent. Alors, c'est absolument sidérant.
Alors, puisque là, nous faisons la promotion de l'indépendance, eh bien, pour justement que Radio Courtoisie reste indépendant, le bobino.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Alors, à nous de continuer les pâturages du ciel. Et ce soir, donc, je rappelle le thème de cette émission, le pétrole de Dallas à Hormuz, histoire d'une dépendance à un flux constant de pétrole et toutes ses conséquences. Nous en étions justement à évoquer les énergies alternatives et nous avons juste caresser un thème qui était justement celui du nucléaire, qui revient en grâce depuis quelques années, qui n'a pas connu le même sort en Chine, et d'ailleurs Hervé Juvin pourra nous dire où les Chinois en sont de ce côté-là. Mais Jacques, je crois que vous avez un commentaire à faire justement sur le nucléaire et son...
C'est très difficile en France de critiquer le nucléaire. On est dans un
maintenant.
Pays. Oui, mais maintenant, depuis quand même assez longtemps, je pense qu'on est dans un pays Louis XIVien, centralisateur, comme on l'a dit, très fier de ses grandes constructions, de ses grands monuments. Et le nucléaire s'inscrit vraiment là-dedans parce que ce sont ces gigantesques centrales dont personne ne se dit que ça peut abîmer le paysage, d'ailleurs, contrairement aux éoliennes, c'est bizarre. Enfin, et personne ne se dit que ça peut être dangereux d'habiter quand même autour d'une centrale nucléaire.
Ah, si.
Ceux si, qui quand même. Habitent, oui, d'accord, mais on les a quand même implantés, en fait. Ouais. Et c'est vraiment l'exemple de la centralisation, parce que personne ne peut piloter localement, je crois, une centrale nucléaire, et on est vraiment très loin des provinces ou des pays.
Il y a des miniaturisations qui sont
à l'étude. Oui. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce n'était pas conçu comme ça. Et ensuite, on nous dit que c'est le gage de l'indépendance de la France, sachant qu'il y a 0% d'uranium à peu près qui est extrait sur le territoire français. Donc 100% d'uranium qui est importé du Kazakhstan, du Niger, de nombreux pays comme ça. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve en plus dans cette situation paradoxale où on envoie une partie de notre uranium enrichi être retraité en Russie, qui est la seule usine qui soit capable de faire ça, qui nous le renvoie ensuite. Donc on commerce aujourd'hui avec la Russie qui est pour le reste un ennemi depuis 2022, et ça gêne personne. Et voilà, encore une fois, on ne possède pas d'uranium non plus. Et je ne parle pas en plus de tous les risques qu'entraîne une centrale nucléaire, comme on l'a vu au moins 3 fois dans l'histoire mondiale. Et je n'oublie pas non plus que le nucléaire est quelque chose qui est né de la guerre et qui est né de à peu près 300 000 Japonais qui sont morts sous une bombe. En fait, que c'est vraiment une énergie née de la guerre, en fait. Voilà. Et que ça nous a été aussi vendu en France par les Américains au début, qui nous ont donné leur technologie, et qu'on est pris dans le plan Mesmer des années 70, voilà, enfin de toute l'électrification de la France avec centrales nucléaires, que ce sont des investissements de centaines de milliards, donc une fois qu'ils ont été faits ou qu'ils ont été commencés, même si ça met 20 ans à être construit, on ne peut plus jamais en sortir. Voilà, donc on est pris dans cette sorte
Oui, c'est l'inertie d'une décision. Voilà. Oui.
Mais c'est quand même, je pense, une des énergies ou une des constructions humaines qui entraîne le plus ça, enfin cette programmation sur des décennies, et qui nous rend prisonniers de la chose, malgré les risques qu'il peut y avoir, et malgré le fait que ça puisse empêcher le développement d'autres énergies, malgré le fait que ça puisse empêcher de penser autrement. Voilà. En France, je sais qu'on se fait vite lapider quand on critique le nucléaire. Mais
est-ce que ça n'est pas la caractéristique de toutes les énergies, disons, dominantes, à commencer par le pétrole, qui, lui, se voit bien, je dirais, leader incontesté, tant que ces acteurs économiques y trouvent leur intérêt.
Si, aussi, je ne suis pas en train de...
Enfin, j'ai l'impression que c'est
une Total à côté qui est
c'est
aussi
la caractéristique de ce qui fonctionne, quoi, en fait.
Bah, de ce qui fonctionne, non, si vous parliez de l'énergie hydroélectrique, des choses comme ça, en fait, voilà, il y a plein d'autres variétés possibles, je pense, quoi, qu'on n'a pas testées en France ou pas pris dans notre gigantisme et dans notre fascination pour l'atome et pour le nucléaire, voilà.
Ouais.
Qui, moi, je pense, mérite quand même une certaine critique, et notamment économique et financière, parce que ce sont quand même des investissements gigantesques qu'on ne voit pas. À la fin, on nous dit, vous, consommateurs, vous payez un coût assez bas pour l'électricité, ce qui est vrai, mais en tant que citoyen, on a quand même contribué beaucoup à investir beaucoup à travers l'État dans ces...
Enfin, on a quand même eu le
dans ces centrales-là, en fait.
Ouais, voilà. On a quand même eu le sentiment qu'on a connu une parenthèse d'au moins une vingtaine d'années pendant laquelle le nucléaire était... C'était un row sur le nucléaire, à commencer par la fermeture, par exemple, de Superphénix et de Fessenheim.
Fessenheim, oui.
Ah non, mais ça a commencé avec Superphénix, et j'ai l'impression que Fessenheim, ça a été plutôt la conclusion. Mais un mot, justement, sur le nucléaire.
De la soumission française au vert allemand.
Oui, c'est pour ça que j'ai l'impression que le nucléaire français est jalonné beaucoup plus, disons, d'atermoiement que d'un véritable scandale. En tout cas, votre avis.
Je rappellerai d'abord que le pétrole, ça sert aussi à faire la guerre, parce que notamment les armées allemandes l'ont connu à leur détriment.
C'est pas né de la guerre non
ça
plus.
Ça n'est pas du tout. Le pétrole sert aussi à faire la guerre. De manière un peu pragmatique, je dirais que la France a eu un avantage considérable dans le monde en développant une réelle autonomie, à la fois sur le nucléaire civil et sur le nucléaire militaire. Ce que je vais être totalement d'accord avec Jacques de Guibon, c'est qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et je pense que, alors, dans la perspective d'une défense autonome de la France et d'une grande politique étrangère de la France, vis-à-vis notamment des partenaires européens dont aucun ne dispose de l'arme nucléaire, puisqu'on peut considérer que les Britanniques n'en disposent plus aujourd'hui, la France a un atout assez considérable. J'entendais récemment Alain Bauer rappeler, c'est l'ironie de l'histoire, qu'en fait c'est Mendès France qui a signé le premier un décret lançant la recherche d'une autonomie nucléaire de la France, qui évidemment a été porté à sa réalisation par le général de Gaulle. Mais c'est intéressant de voir que dans ce domaine, il y a eu quelque part une union nationale pour doter la France de l'arme nucléaire. Ce que je dirais de manière très pragmatique, j'en ai été témoin assez tôt dans les années 80 ou 90, c'est que par exemple, les chercheurs et les premiers exploitants chinois du nucléaire accueillaient avec une ferveur inouïe les représentants d'EDF, et c'était « nous avons à apprendre de vous ». Je le dis avec un petit sourire parce que la situation s'est à peu près inversée. Je crois que maintenant, on a des missions d'EDF en Chine qui vont demander comment vous arrivez-vous à faire, je crois, 36 centrales nucléaires en ce moment en chantier et à les faire en 2 ans. Ce que nous ne savons plus faire. Perte de compétences, et arrêt des investissements, etc.
Et peut-être pas tout à fait le même modèle c'est pas le même social modèle. Et de travail.
Il y a un point qui me paraît très important dans notre débat.
La revanche des dictatures.
C'est que le nucléaire français, je considère, avec 2 agences... indépendante, chargée de la sécurité nucléaire. Ces 2 agences, l'une qui est chargée de vérifier que les populations n'étaient pas soumises, etc., et l'autre chargée de vérifier tous les processus, ont assuré à ce jour une sécurité nucléaire assez exemplaire.
C'est vrai.
Je le dis parce que c'est un sujet en question. La sécurité des centrales nucléaires françaises, ça repose beaucoup sur le fait que tout est analogique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'intrusion extérieure. Et un élément qui me paraît extrêmement dangereux et beaucoup trop peu commenté par la presse, à la suite d'une visite de l'incontournable Bill Gates, d'abord à Bruno Le Maire, ensuite à Emmanuel Macron, c'est de promettre à la France le développement de micro, de mini-centrales. Emmanuel Macron a même dit qu'il en souhaitait pour la ville de Marseille. La particularité des mini ou micro-centrales installées par Bill Gates, ça ne surprendra personne, c'est qu'elles sont pilotées de manière numérique, donc à distance, donc elles peuvent être contrôlées par des tiers. C'est comme l'avion F-35, une fois que vous avez acheté le F-35, vous n'avez rien puisque les États-Unis continuent à le contrôler. Vous avez le droit de faire les guerres que les États-Unis veulent bien que vous fassiez. Si vous entendez vous battre contre un ennemi qui n'est pas celui des États-Unis, votre F-35, il ne servira à rien. À la grande différence du Rafale ou naturellement des avions russes. Les centrales pilotées par numérique me paraissent représenter un danger pour la sécurité nationale. Ça me paraît extrêmement grave que l'administration et le gouvernement présidé par Emmanuel Macron, dirigé par notamment Bruno Le Maire quand il était encore le désastreux ministre de l'économie qu'il a été, ouvre la porte de la France à des mini ou micro-centrales venues de l'Empire Geist, dont on sait qu'il poursuit tout sauf un objectif d'indépendance nationale, d'autonomie et de sécurité. Et je pense que c'est une alerte qu'il faut faire, d'autant que l'autre projet du gouvernement actuel, c'est de réduire les 2 agences de sécurité nucléaire à 1 seule. Ça me paraît aussi dangereux que toutes les menaces qui pèsent sur l'ANSES, qui pèsent sur l'ADEME, sur toutes les agences indépendantes chargées de vérifier la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale, la sécurité énergétique des Français, réduire les 2 agences de sécurité nucléaire à 1, il me semble là que c'est un danger extraordinairement grave pour la sécurité nucléaire, donc pour la santé des Français.
Alors, notre émission est écoutée et fait l'objet d'une question de la part de Mme Plukalec. Bonsoir messieurs, je pourrais vous indiquer ce que j'ai vécu à New York entre les ambassades de Syrie et de France en 1973. Pourquoi la France de Pompidou Rothschild a-t-elle refusé les offres de la Syrie ? Pompidou Rothschild, on appréciera. Je l'ai vécu et pourrais vous le raconter hors émission. Alors je ne sais pas si vous avez un avis sur la chose.
Toute information est toujours bonne à connaître.
Oui, oui, tout à fait.
Je ne vais pas remonter au mandat Sykes-Picot. Je ne vais pas remonter à un épisode très peu connu de l'histoire, qui est que le ministre d'alors des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne et le Premier ministre disent après la signature de ces accords qui définissaient en gros la ligne de partage entre la France et la Grande-Bretagne, il y a une ou deux choses qu'on aimerait bien vous demander, Monsieur Clémenceau. Et Clémenceau dit, et je vous accorderai, à cause de la contribution évidemment de la Grande-Bretagne à la Grande Guerre. Et les deux choses, ça a été donnez-nous Mossoul. Et la seconde chose qu'on oublie, c'est donnez-nous Jérusalem. Et Jérusalem aurait pu être sous contrôle français, on imagine la suite de l'histoire, et Jérusalem a été placée dans la zone de contrôle britannique, c'est-à-dire que la Palestine a été placée sous contrôle britannique, avec toute l'histoire ensuite que l'on connaît. Ça me paraît important de le rappeler, parce que les péripéties de la France en Syrie, j'ai eu la chance d'aller en Syrie très tôt, dans les années 90, où dans les grandes familles, notamment d'Alep, tout le monde parlait français. Je pense qu'aujourd'hui, à peu près plus personne ne parle français. Et j'ai eu l'occasion de dîner dans une magnifique bibliothèque qui était à peu près remplie de grands classiques français. On a oublié que la Syrie a été française, on a oublié le mandat français, on a oublié qu'il y a une culture et une empreinte française profonde. Je ne parlerai pas du malheureux Liban aujourd'hui. Quel retrait et quelle catastrophe pour la présence française que tout ce qui s'est passé au cours des dernières décennies.
Alors, les autres questions, ou plutôt remarques. Qui sinon l'Allemagne et l'Angleterre, surtout l'Allemagne, détruisent la France par son énergie? Ou en tout cas, oui, c'est
l'énergie BND a été imposée par la France et ça a été en effet un moyen de détruire. Mais je quand même soulignerai autre chose. Grâce au nucléaire, désolé Jacques, grâce au nucléaire, on a gardé un avantage pour nos industriels avec un relativement bas coût de l'énergie. Il faut faire très attention à ce qu'a imposé l'Union européenne. L'une des grandes catastrophes, évidemment pour l'industrie allemande, mais aussi pour l'industrie française, ça a été le sabotage de Nord Stream 2. Et une honte pour moi indélébile de l'Union européenne, c'est de n'avoir diligenté aucune enquête et de n'avoir exercé aucune mesure de rétorsion contre ceux qui sont responsables du sabotage de Nord Stream. Ça a été le sabotage et la destruction de l'autonomie industrielle allemande et aussi accessoirement française à cause de l'explosion du coût de l'énergie et à cause de notre dépendance totale maintenant au pétrole et au gaz américain ou contrôlé par les États-Unis.
Oui, d'ailleurs, on pourra dire que la dépendance au gaz américain n'est pas du tout de la même nature que celle d'autrefois, lorsque Nord Stream existait encore, puisque un gazoduc n'a pas du tout la même consommation, en tout cas ne génère absolument pas les mêmes contraintes de transport que le gaz
naturel liquéfié.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que quand on compare et qu'on se dit, ben, finalement, on va pouvoir se reporter sur une autre provenance, à partir du moment où le gaz traverse les mers, c'est terminé.
Non, il y a une stratégie de soumission de l'Europe à laquelle, malheureusement, nombre de dirigeants européens ont souscrit.
Oui. Oui.
Je ne sais pas s'ils l'ont vu, en fait, ou si c'est de la naïveté ou de... Vous pensez que c'est de la complicité, vous ?
Disons que l'Europe n'est pas connue pour être le grand rendez-vous des intérêts nationaux.
Après, en matière énergétique, chacun tire un peu dans son coin. L'Italie ne fait pas la même chose que la France, qui ne fait pas la même chose que l'Allemagne. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment
de politique
globale. Enfin, on essaye d'en imposer une, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas pour l'instant et qu'il y a des souverainetés qui résistent et des intérêts nationaux.
Aussi en raison du climat, enfin, au sud de l'Italie, le solaire est une solution.
En Espagne aussi,
en Suède,
bien
sûr. Bien sûr.
C'est
ça, l'Union européenne a une inconscience sur les questions territoriales absolument sidérante.
Alors, je me dois de poser toutes les questions de nos auditeurs. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle dans les ministères de l'environnement un bureau privé de lobbying installé? Là, je crois que ça me fait penser en fait à cette anecdote, ou en tout cas à ce détail, mais je me souviens justement de l'effacement de barrages en France, sur la Célune, je crois, petit fleuve côtier, deux barrages qui avaient été effacés, et le maître des opérations, ou en tout cas celui qui semblait être l'autorité pour effacer ses, conduire jusqu'à son terme l'effacement de ses barrages, était allemand. D'ailleurs, au début du reportage, il parlait à peine français, à la fin, il parlait déjà beaucoup mieux français. Donc, c'était quand même très étonnant de voir que le directeur des opérations, de toute évidence, venait d'Allemagne. Donc, ça
c'était en 44, c'était quand ça,
ah non, c'était très récemment. C'était il y a... Malheureusement, c'était pas en 44, non. C'était il y a peut-être une dizaine d'années, à peine. C'était... Mais en tout cas, ça faisait partie du programme d'effacement des barrages au nom de la remontée des saumons, etc. Enfin, voilà. Sachant que, un mot quand même sur les barrages, la plupart des barrages en France sont implantés depuis, avant la Révolution, je crois que c'est plus de 90%, et qu'un barrage qui est inscrit dans un contexte depuis, quelques dizaines d'années, a complètement... adopté, ou enfin l'écosystème qui l'entoure l'a forcément totalement intégré. Donc en fait, de l'effacer, c'est là où la perturbation est réelle.
Oui, en tant qu'élu local, j'ai souvent été saisi d'actions qui m'ont semblé extraordinairement violentes et probablement pas très fondées des agences de l'eau. Les agences de l'eau conduisent en effet une action résolue pour détruire énormément de barrages ou énormément, disons, de retenues d'eau dont certains datent de siècles, dont certains constituent dans la mentalité locale des monuments historiques ou des lieux où on a envie de venir en famille au bord de l'eau parce que ça fait des retenues. Et les actions de l'agence de l'eau sont quelquefois, me semble-t-il, extraordinairement inappropriées et violentes pour la population locale.
Et quels sont leurs arguments pour détruire des retenues d'eau, par
exemple ?
C'est
la biodiversité, la circulation des poissons, etc.
Oui, une retenue d'eau, ça n'empêche pas forcément.
Et le fait que l'eau.
Alors, j'ai malheureusement perdu mes notes, puisqu'elles étaient sur... je n'arrive pas à les retrouver, enfin sur mon ordinateur. Mais nous avions évoqué justement ce retour, en tout cas avec cette crise du détroit d'Ormuz, un probable retour au local. Et là, justement, je vous attends sur cette... cette tendance qui semble être non plus une option, mais presque une obligation, presque un mouvement qui s'est déjà amorcé.
Vous me pardonnerez deux phrases de politique. Ce que nous sommes en train de redécouvrir, et j'y insiste partout dans le monde, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans terre. Il n'y a pas de démocratie en l'air, dans le paradis mondialisé, où tous les hommes sont les mêmes, où on circule librement, il n'y a plus de frontières, etc. Une communauté politique et donc la liberté politique de faire ses choix, de se différencier des autres sociétés humaines et de poursuivre sa propre culture, sa propre civilisation, ça suppose un territoire et ça suppose un territoire défini par une frontière. Ça, c'est en train de... Je pense que la prise de conscience mondiale, je vois toutes les réflexions en Afrique, où maintenant on me dit « tu ne parles plus jamais de l'Afrique ». L'Afrique, ce sont une cinquantaine de nations. Il y a des nations en Afrique, il n'y a pas une Afrique. J'entends le même écho dans la Global Governance Initiative lancée par le président Xi Jinping en Chine, qui est une incitation notamment aux différentes provinces chinoises d'être plus actives, de nouer des contacts avec les pays étrangers, avec les entreprises étrangères, et en quelque sorte, c'est du local que doit partir et se réinsérer le développement. Je pense que c'est assez mondial, on en a d'ailleurs des traces aussi dans l'administration Trump, notamment à travers l'action de Kennedy à la santé. Si nous revenons à notre sujet, il y a un mot qui est un mot du localisme, c'est le low-tech. Le low-tech, c'est quoi? Le low-tech, c'est globalement des choses qu'on peut réparer soi-même ou qu'on peut réparer, l'artisan local peut le réparer. L'inverse de la majorité des voitures bourrées d'électronique aujourd'hui, où vous êtes totalement dépendant du constructeur, où le garagiste local ne peut plus rien faire.
Et l'inverse d'une centrale nucléaire aussi, je peux permettre
c'est
de
bien entendu. Mais bien entendu. C'est aussi ces géantes pales d'éoliennes qui quand même détruisent les paysages marins, etc., comparé aux petites éoliennes que j'évoquais, qui peuvent simplement servir à un foyer ou servir à un petit établissement. Bref, le low-tech, c'est ce qu'on peut réparer localement. Le low-tech, c'est ce qu'on contrôle localement. Et j'y insiste, le low-tech, à la différence du numérique, laisse l'autonomie à celui qui s'en sert. Il faut bien voir, et je crois que c'est un message important par rapport à tout ce qui est raconté, l'agriculteur qui commence à utiliser le pilotage par satellite, le pilotage numérique de son tracteur et de ses intrants, qui bientôt va être complètement dépendant de Starlink et des systèmes développés par Elon Musk, il n'est plus propriétaire de sa terre et il n'est plus un exploitant autonome. Il est totalement dépendant des informations qu'on lui envoie, des consignes qu'on y envoie, et n'ayons pas d'illusions, des intérêts des grands semenciers, des grands chimistes de l'agriculture qui en fait pilotent son système d'exploitation. J'entendais avec horreur un agriculteur dans la région de Vitré me dire « mais maintenant mon exploitation, il doit avoir une centaine de vaches, évidemment un méthaniseur ». Et il me disait « vous savez ma ferme, maintenant je la pilote entièrement de mon smartphone ou de mon ordinateur ». Et j'avais envie de dire « il est propriétaire de ses terres ». J'avais envie de lui dire « mais est-ce que tu te rends compte que tu n'es plus propriétaire de rien ?» Les données que tu envoies, les données qui sont recueillies, sont traitées par les géants du big data, bientôt par les géants de l'intelligence artificielle, ouais, et tu perds totalement la maîtrise de tes productions. Ça, c'est l'inverse du low-tech.
Un avis
Oui, non, j'allais venir justement sur la question de l'IA, en fait, qui est la suite de ça, en fait. C'est-à-dire que c'est une dépossession et ça nous rejoint sur la question de l'énergie, parce qu'en fait, l'IA est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui avec une dépense d'énergie prodigieuse. On revient à ce que vous disiez, qu'aujourd'hui, aucune énergie n'en remplace une autre. En fait, on les additionne pour on a besoin de les utiliser. Ou on ne sait pas si c'est l'IA qui est née parce qu'on avait beaucoup plus d'énergie ou si on a commencé à créer encore plus d'énergie parce qu'on avait cette IA à nourrir. Enfin bref, en tout cas, c'est lié. On n'est pas du tout dans un mouvement de sobriété tel qu'on a pu le penser dans les années 90 ou 2000 en disant que peut-être qu'on allait arriver à ça, notamment à cause du pic de pétrole, notamment parce qu'il y avait une prise de conscience des populations, en tout cas en Occident, de revenir à une sobriété. Là, on est vraiment engouffré dans une nouvelle surdépense d'énergie que sont ces data centers, en fait, et qui nous rendent encore plus prisonniers, en fait, justement, quoi, de cette énergie dépensée, quoi.
Oui. Alors, malgré tout, sur le modèle agricole, parce que c'est un thème de fond de cette émission, voyez-vous justement un changement profond qui pourrait en passer par l'adoption des low-tech et pourquoi pas aussi de la robotisation miniature. C'est-à-dire que on imagine une addition, enfin en tout cas c'est pas ce dont je rêve, mais par pragmatisme on se dit mais est-ce que on ne doit pas utiliser le meilleur des deux technologies, c'est-à-dire la technologie la plus miniaturisée et la plus intelligente, la plus efficiente, associée à justement du low-tech. Je pense à un exemple tout à fait hors agriculture, comme les tondeuses à gazon. Voilà, les tondeuses à gazon, on ne peut pas dire que ce soit... tout le monde se fait une idée. Et en fait, grande révolution dans le monde de la tonte, on passe du tracteur, qui se rapproche en fait du tracteur agricole en miniature, et on passe en quelques années au robot. Au robot avec une limite. C'est-à-dire qu'on définit la périphérie et le logo est le robot est limité à cette surface. Donc c'est encore, je dirais, assez rustique comme système. Et là, en l'espace de quelques années, mais quand je dis quelques années, c'est 4 ou 5 ans à peine, on est passé à des robots qui intègrent de l'IA et qui reconnaissent les plantes.
Qui reconnaissent les fleurs.
Oui, qui reconnaissent les fleurs. Alors, est-ce que l'on pourrait imaginer une agriculture qui tendrait vers ça? Je pense aussi à un autre exemple, le vélo, qui, simplement associé à une batterie, qui est quand même de la high-tech, se retrouve avec une nouvelle, je dirais, se retrouve dans une nouvelle ère où l'adoption du vélo est beaucoup plus universelle, ou en tout cas donne la possibilité d'être beaucoup plus universellement utilisée.
Alors. Oui, mais quand vous parlez de robotisation pour l'agriculture, ça consisterait en quoi en fait? Ce sont des choses qu'on peut fabriquer localement, qu'on peut réparer encore une fois localement, qu'on peut recycler, etc. Ou ce sont des choses extrêmement complexes
Par exemple,
qui rendent encore dépendant en fait l'agriculteur de.
Alors ça dépend
des fabricants et des fournisseurs.
Je pense à toutes ces informations fines ou en tout cas qui peuvent être traitées par robot plutôt que de se dire qu'on a un recours aux pesticides, fongicides, etc. C'est une sélection qui pourrait être beaucoup plus fine. Parce que précisément, enfin, on sait que maintenant il y a déjà des robots qui existent sur le marché et qui ont des robots récolteurs. Alors, je ne dis pas que.
Mais vos robots, ils fonctionnent avec quelle énergie en fait et quelle dépense d'énergie? Parce que c'est encore une fois une question aussi s'il y a de l'IA dedans en fait, quelle énergie ça va dépenser. Et à l'autre bout du monde, en fait, on est peut-être en train de forer pour nourrir votre robot en données pour que vous ayez l'impression, vous, dans votre jardin, que c'est un robot intelligent et low-tech qui respecte la fleur et le hérisson, ce qui est très bien en soi. Le problème, c'est comment on le fait fonctionner en fait, et quelle dépense cachée d'énergie ou de matériaux il y a là-dedans aussi, parce qu'en fait, quels métaux rares ou pas vous utilisez. Enfin bref, c'est une chaîne extrêmement longue et complexe qu'il faut, étudier.
Je le conçois très bien, mais on voit aujourd'hui qu'il y a une acceptation, par exemple, des voitures ultra complexes. Et pourtant, les voitures ne rendent pas tellement plus de services qu'elles n'en rendaient dans les années 70. Et aujourd'hui, pourtant, on voit sur le marché des véritables robots roulants qui ont une durée de vie beaucoup plus courte, puisque il faut presque, je dirais, elles sont dans une logique d'obsolescence programmée, mais beaucoup plus informatique qu'en termes de résistance. Aujourd'hui, la durée de vie, à mon avis, d'une voiture doit avoisiner 10 ans, alors qu'on pouvait très bien concevoir autrefois des voitures qui duraient beaucoup plus longtemps, en tout cas en moyenne.
Mais peut-être que la voiture, ça relève aussi de la dépense somptuaire, et c'est aussi de la démonstration en fait, d'avoir une belle voiture qui vaut tant, etc., et qui est un objet technologique, et que la jouissance se passe là-dedans, en fait, beaucoup plus que...
On peut peut-être quand même l'usage, se dire que l'utile va primer sur justement la représentation. On voit bien d'ailleurs que dans certains cas, le fait d'utiliser un vélo est beaucoup plus valorisant que de se déplacer en gros SUV, tout électrique.
Ça dépend des régions de France et des classes sociales.
Je parle d'une tendance en fait. C'est vraiment, disons que le vélo n'est plus appréhendé comme une honte en se disant « non mais vraiment, on roule à vélo parce qu'on n'a pas les moyens de rouler en voiture ». Donc c'est vrai qu'il y a cette... Mais je pensais surtout à l'agriculture et quel avenir, justement, voyez-vous, Hervé, dans cette agriculture qui redeviendrait locale?
Le grand débat, je pense, pour l'agriculture depuis maintenant plusieurs décennies, c'est où vont les marges et qui contrôle. On est passé d'une agriculture qui assurait une existence, j'ai envie de reprendre les mots du général de Gaulle, qui assurait une existence mesurée mais convenable à la grande majorité de la population agricole, à une agriculture qui assure des revenus très confortables à quelques dizaines de milliers d'agriculteurs et qui laisse plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs, il en reste à peu près 400 000, qui en laisse au moins 200 000 dans des situations financières extrêmement difficiles, nécessairement le double emploi et quelquefois à peine un SMIC agricole compensé par des petits travaux ou par d'autres services. Ce n'est pas un modèle durable. Ce modèle traduit quoi ? Il traduit pour moi le déplacement des marges. Les marges sont déplacées de l'agriculteur producteur vers le machinisme agricole, vers le banquier qui prête, vers la coopérative. Et puis ça s'est déplacé aussi vers le distributeur. Et in fine, ça se déplace vers le financier. Et je pense que c'est l'une des grandes questions que posent les stratégies, les soi-disant stratégies européennes pour l'agriculture. C'est le grand sujet qui est posé aujourd'hui dans les évolutions de certains partis politiques par rapport à l'agriculture, disant il faut assurer notre sécurité alimentaire, il faut assurer la puissance alimentaire de la France, donc allons plus loin vers l'industrialisation, plus loin vers les grandes exploitations. J'entends des débats au sujet des poulets, puisqu'on importe des poulets lavés au chlore, nourris, sevrés d'antibiotiques, etc. Ben, en France, libérons les choses et créons des poulaillers de 300 000 poules. Simplement, il faut voir les conséquences, et est-ce que c'est réellement la viande et la qualité de viande que les Français souhaitent? Pourquoi j'évoque cela? Parce que ce sujet de déplacement des marges me paraît absolument considérable. On a abandonné un modèle traditionnel d'agriculture, sauf dans les fantasmes des visiteurs des salons d'agriculture, pour aller vers les modèles dénoncés avec beaucoup de force par Robert Kennedy Jr. aux États-Unis. Savez-vous qu'aux États-Unis, plus de 60 à 70% de la viande est contrôlée par 5 firmes, dont 2 d'ailleurs sont contrôlées par la Chine? Est-ce que c'est acceptable que l'essentiel de la nourriture soit contrôlé par une poignée de grandes firmes mondiales? Tout le monde pense à Cargill et quelques autres. Si on refuse ça, il faut nécessairement trouver les moyens de financer de manière convenable, en assurant des revenus décents, à la petite propriété agricole. Mais qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit petite propriété agricole? On a dit propriété. Et là, je vais revenir à vos robots tondeurs ou aux robots agricoles. Je vais revenir à mon tracteur piloté par satellite. La question, c'est qui contrôle l'information? Si votre information est entièrement pilotée, ce qui est le cas d'une partie des tracteurs, par Google, si votre information est entièrement pilotée par les sociétés d'Elon Musk, vous n'êtes plus propriétaire récoltant, vous n'êtes plus agriculteur, vous êtes quelque part le manœuvre d'Elon Musk ou de Google. Cette question de la propriété me paraît essentielle. On l'a raté dans le domaine des semences de ferme et des variétés population. Savez-vous que le Grenelle de l'environnement 2007-2010, avait voté à l'unanimité la liberté. Vous avez des plants de tomates. Vous étiez libre de passer des semences ou des plants à votre voisin et vous étiez libre, dans des limites évidentes, de les vendre. Un certain Bruno Le Maire, à l'époque ministre de l'Agriculture, a refusé de signer les décrets d'application. Donc aujourd'hui, la quasi-totalité des semences, dont certaines sont là depuis des siècles, la quasi-totalité des variétés végétales ou animales qui sont endémiques à un territoire, adaptées à un territoire, elles sont placées sous le contrôle de l'industrie. Et vous ne pouvez les vendre, vous ne pouvez les commercialiser qu'en payant une redevance aux propriétaires du vivant. Ça, à mon avis, c'est la dépossession majeure de l'agriculture française aujourd'hui. Elle est malheureusement encouragée par les industriels, elle est malheureusement encouragée par le système bancaire, elle a été, je crois que ça change, malheureusement été encouragée par les écoles d'agriculture et les chambres d'agriculture, mais il faut bien voir que c'est un gigantesque mouvement de dépossession au profit des semenciers, des chimistes et des grands commerçants du vivant.
Et laissez-vous dans ce schéma, justement, qui semble inexorable, vers on imagine même que les grands céréaliers finissent par être les victimes de cette globalisation, ou en tout cas de ces énormes groupes internationaux qui deviennent possesseurs également de ces terres. Alors, que pensez-vous de la paysannerie? Puisque j'ai l'habitude, lorsque je ne tiens pas le rôle d'animateur, de rappeler qu'il y a deux mondes agricoles. Il y a celui de la paysannerie et celui des exploitants agricoles, et je fais bien une différence entre les deux.
Celui de la paysannerie, c'est la tenue des territoires. Elle est en train de reculer. Il ne faut pas se voiler la face. Elle est en train de reculer considérablement. Elle recule aussi considérablement avec les limites mises aux primes à la transition en bio. Il y avait de grands projets, notamment pour faciliter l'installation de femmes qui veulent aller vers l'agriculture. Ces projets n'ont pas reçu les financements qui étaient annoncés. Donc globalement, par exemple, sur la question d'une exploitation respectueuse des territoires, respectueuse des variétés d'origine sur ce territoire, qu'on appellera agroforesterie, qu'on appellera permaculture, etc., nous ne sommes pas en progrès, nous sommes en régression sensible en France. Jacques, je pense que...
Avec la collaboration des... j'ai découvert ça récemment, sur le bio, la régression est due aussi aux marges que font les grands distributeurs qui se sont permis de faire des triples marges en fait, sur le bio, en se disant que le consommateur final allait payer beaucoup plus cher parce que de toute façon, il était prêt à payer, en fait, alors qu'il ne faisait pas de marge sur l'industrie, sur l'agriculture, disons, industrielle et conventionnelle. Enfin, ce qui est vraiment un scandale, c'est-à-dire qu'ils sont gavés là-dessus. Et en plus, la vraie question, je pense, de la paysannerie, c'est aussi la question du nombre d'êtres humains qu'on trouve dans nos campagnes aussi. Donc, si une agriculture qui n'est plus pilotée qu'à distance par des robots, des machines qui vont toutes seules, en fait, c'est inintéressant. En fait, on s'en fiche. Enfin, dans ce cas-là, on a des champs qui produisent tout seuls et nos campagnes ne sont plus vivantes et il n'y a plus de paysans du tout et plus personne ne vit.
Il n'y a plus de village.
Plus vous mettez de robots, moins vous aurez, à mon avis, de main-d'œuvre, de personnes qui travaillent là-bas. Donc, je pense que le vrai nœud de la chose, c'est d'essayer d'inciter des gens à vouloir être des paysans ou des agriculteurs, en fait, aujourd'hui, notamment les femmes, comme vous le disiez, enfin voilà, ou les enfants qui n'osent pas reprendre les exploitations de leurs parents, etc. Je pense que c'est la désertification qui est le vrai souci.
Enfin, c'est vrai que
comment les inciter, en fait, alors qu'ils n'ont pas de revenus suffisants, alors qu'ils sont méprisés, alors qu'ils sont voilà.
Alors j'ai l'impression qu'en France, ça n'est pas le fait de les encourager qui soit important, c'est d'éviter de les décourager.
Oui.
C'est-à-dire que ceux qui émergent se plaignent non pas simplement des normes, mais beaucoup plus de la défiance de tout un paysage administratif d'une complexité absolument délirante, mais qui
avec
devient
les choses
non
comme
pas
les, comme les affaires mais... aussi qui sont des mafias. Enfin voilà.
Oui, alors ça pour l'attribution des terres.
Oui, voilà. Oui.
Et qui vont avoir une politique, oui. Effectivement, de distribution des terres
c'est
priorité,
peu visible, oui.
À ceux qui en, est
oui.
Déjà, qui en sont déjà propriétaires de centaines.
La concentration.
Voilà, c'est ça.
Ouais, oui, c'est la concentration. Alors, dans cette perspective, est-ce qu'il y a malgré tout un espoir? Parce que, enfin, voyez-vous en fait une raison pour laquelle cette paysannerie pourrait malgré tout résister? Parce qu'on on a le sentiment quand même qu'il y a un soutien populaire, mais...
D'abord, une raison d'espoir, c'est qu'il y a un fort intérêt de jeunes qui surprend y compris les professionnels des milieux agricoles, les coopératives, etc., qui voient arriver des jeunes, souvent de milieux urbains, nombre de femmes d'ailleurs, désireux de s'installer. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas les bonnes réponses. Vous avez évoqué la grande question des affaires qui favorisent la concentration. Je pense que le milieu agricole traditionnel, il ne faut pas se raconter l'histoire, n'est pas nécessairement très favorable aux jeunes qui viennent de milieux urbains s'implanter et on ne leur réserve pas nécessairement des bonnes surprises.
Ouais,
c'est un milieu rude, c'est un milieu généralement extraordinairement conscient de ses intérêts,
oui.
C'est un milieu aussi assez conservateur, il y a ceux qu'on connaît et il y a ceux qu'on ne connaît pas, et on ne va pas faciliter la vie de ceux qu'on ne connaît pas, il ne faut pas se raconter l'histoire là-dessus.
Sûr.
Mais il y a un intérêt de nombre de jeunes pour s'installer et s'installer professionnellement. Ce n'est pas les gens qui vont garder des chèvres dans le Larzac après 68. C'est des gens qui ont envie de monter une exploitation, souvent spécialisée, certains ayant une bonne formation économique, très conscients des réalités économiques, ayant accompli le parcours du combattant d'acquérir les diplômes qui permettent d'exploiter. Et ça, c'est une source d'espoir. La seconde source d'espoir, très clairement, c'est la conscience de la population. On a quand même, toutes les enquêtes le montrent, on a quand même de vrais sujets d'inquiétude dans la population sur la qualité sanitaire des aliments, sur le goût des aliments, sur le fait que les tomates standards qui ont des couleurs merveilleuses et les gardent pendant une semaine, peut-être que c'est au détriment du goût. Peut-être qu'il y a des fruits et des légumes qui ont un moins bel aspect, mais qui en revanche éclatent de saveur et de goût. Là, il y a une prise de conscience assez forte. Je pense qu'on pourrait voir sur les différents produits alimentaires un peu la conscience qu'il y a eu sur le vin. On en consomme moins, mais vous savez que la consommation a beaucoup évolué en qualité. Et que dans des lieux qui n'y étaient pas habitués, on voit des gens consommer des bouteilles de vin. Alors, ils en consomment beaucoup moins, mais pour des prix unitaires bien supérieurs à ce qui était le cas. Je pense qu'il y a des raisons d'espoir, mais ne rêvons pas aux directives européennes. Ne rêvons pas dans les grands plans nationaux, ça passera d'abord par la conscience du consommateur et par la demande du consommateur. Je constate autre chose pour en revenir, j'étais sur des marchés en Bretagne, à Landivisiau, à Carantec, à Roscoff. L'afflux et le succès des marchés est sidérant, qui n'abaissent pas leurs prix, je dois le dire. J'ai été étonné par certains prix. Mais c'est très clair que ceux qui font le choix des marchés locaux avec la garantie de produits locaux, bon, évidemment, à Roscoff, l'artichaut breton, évidemment, tous les produits, mes amis de la SICA Saint-Paul, évidemment, de Prince de Bretagne, etc., ça marche. Mais il y a un vrai goût, et pas seulement des touristes, aussi d'habitants locaux, pour les produits de mon territoire. C'est toujours meilleur quand c'est consommé là où c'est produit.
Ah oui,
il y a une conscience et il y a un mouvement qu'on peut, il y a un mouvement probablement qu'il faut étendre et qu'il faut aider.
Ah oui, alors c'est vrai que derrière ce « il faut » avec des majuscules, se cache, je dirais, un discours, mais souvent un encouragement purement formel. Et je dirais qu'il y a consensus sur le constat, mais ce qui sous-tend en réalité les véritables politiques reste, c'est comme un organe de pouvoir, mais un organe de pouvoir trop profond, et on se demande si justement localement cette aspiration malgré tout gagnera. Alors nous avons droit à un autre message, toujours de Madame Plukelec, qui nous signale que vous mettez en application pendant l'émission ce que dit Rockefeller, on tient les nations par l'énergie et les peuples par la famine. Excellente émission profonde et précise. Donc, merci à vous deux.
Alors ça, je souligne ça parce que ça a été repris par Kissinger. Il est très clair que le sabotage de Nord Stream 2, etc., ça a été le moyen d'accentuer la soumission de l'Europe.
À qui l'attribuez-vous ?
Il est très clair que ces sujets d'organiser la faim, puisqu'on va avoir des problèmes de retour de la famine à la suite du blocage du détroit d'Ormuz, parce que les conséquences vont se ressentir pendant des mois, notamment sur l'engrais. Pour faire simple, la première usine d'engrais durée dans le monde, qui est utilisée comme les phosphates, c'est un engrais azoté par l'agriculture, notamment en Asie du Sud-Est. La première entreprise mondiale durée a fermé ses portes, ne produit rien. Ça veut dire que dans un certain nombre de régions en Asie, on ne pourra pas avoir les récoltes de riz qui sont annoncées.
Et c'est là, surtout l'Asie qui est touchée d'ailleurs.
Oui. C'est toute l'Asie qui est touchée.
L'Europe est assez épargnée pour l'instant.
L'Inde ayant accepté de payer deux ou trois fois le prix moyen de l'urée au cours des dernières années pour avoir des réserves qui sont des réserves vitales. On voit à quel point la dépendance à la grande exportation et la dépendance à la mondialisation des échanges est en fait une source de risque absolument considérable.
Jacques ?
Oui, moi ça me faisait penser à ce livre, j'ai déjà parlé ici, de Arnaud Aurin, qui est sorti il y a un an et demi, qui s'appelle Le Monde Confisqué, quoi. C'est un essai sur le capitalisme de la finitude, dit-il, enfin voilà, et où il montre comment on est revenu à une époque où c'est celui qui contrôle notamment les grandes routes maritimes, en fait, qui contrôle le capitalisme et le monde en général. Disons, sa théorie, c'est que les grandes périodes de libéralisation où tout était libre, toutes les routes étaient libres, sont assez rares dans l'histoire de l'humanité, et que là, on en est sorti. Voilà, et le détroit d'Ormuz est un cas absolument d'école, en fait, voilà, sous nos yeux, quoi, qui est en train de se passer, quoi. D'où le génie iranien, d'ailleurs, s'est manifesté, je trouve.
Ah, très bien, mais développé.
J'ai aucune, comme tout le monde, je n'ai aucune appétence pour ce régime.
Oui.
Ce régime-là, genre, je parle du génie qu'ils ont trouvé juste en bloquant ce détroit, en fait, à mettre à mal leur adversaire, qui est pourtant la première puissance mondiale militaire encore aujourd'hui. Voilà, ils sont plutôt en position de force, me semble-t-il, pour négocier, malgré, enfin, on ne sait pas ce que dit Donald Trump, il a dû changer déjà 12 fois pendant l'émission, en fait.
Les États-Unis sont à lion blessé.
Il va rebombarder ce qu'il a gagné, ce qu'il va rebombarder. Voilà. Mais donc, là, ils ont manifesté, je trouve, un génie géographique assez incroyable, en fait. Voilà.
Oui. C'est justement, on se dit, mais c'est la véritable promotion, justement, de ce modèle local, qui est, enfin, il y a une relation de cause à effet involontaire de la part de ce théâtre géopolitique, et qui est peut-être la meilleure promotion en ce moment, ou plutôt l'occasion, justement, de ce changement. Là, on parlait justement du low-tech, de la low-tech, et je m'interrogeais sur le fait que la low-tech soit si peu adoptée. Enfin, à tel point qu'aujourd'hui, quand on parle de tech, tout simplement, eh bien finalement, on suggère la high-tech en soustrayant totalement l'existence même de la low-tech, mot d'ailleurs très peu connu.
Alors, tout à fait. Il ne faut pas se cacher, je crois, les enjeux de pouvoir. On commence heureusement à avoir quelques réactions en Europe et notamment en France sur notre dépendance ahurissante à l'égard du big data, à l'égard de l'IA, à l'égard des systèmes d'information américains. Le meilleur exemple étant que notre unité de sécurité intérieure, la DGSI, est sous-traitée ces systèmes d'information à Palantir, dont on sait que Palantir, c'est une émanation directe de la défense et des systèmes de renseignement américains. C'est juste, cette dépendance consentie est juste sidérante. Elle est tout aussi sidérante pour l'agriculture française. Je le répète, il y a aujourd'hui dans les grandes exploitations françaises nombre de robots, précisément,
oui.
Nombre de systèmes qui nourrissent la terre d'engrais divers et d'intrants, totalement pilotés sur la base de données, sur la base de données géographiques, sur la base de données météorologiques depuis les États-Unis. Cette dépendance me semble aberrante. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se dérouler. La low-tech, c'est la safe-tech. La low-tech, et moins il y a de numérique, plus vous êtes en situation de contrôler ce qui se passe. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que la puissance gagnante, pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. La puissance gagnante, ce n'est pas la puissance qui a choisi le big data, la manipulation des systèmes d'information, une économie de services et de l'argent et de la finance, États-Unis. C'est une économie qui a choisi l'industrie et l'énergie. C'est-à-dire, la réalité des choses, c'est l'économie chinoise. Et je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, les choses sont absolument claires pour moi. Le balancement du pouvoir, il se fait totalement en faveur du sud-est asiatique et évidemment de la Chine.
Ah mais merci, ce sera d'ailleurs la phrase de conclusion. Mais avant, je me dois de parler, malgré tout, d'un livre qui nous a été mis entre nos mains, qui a été mis entre nos mains par Jacques, Léon XVI, Magnifica Humanitas. Pardon, Léon XIV, oui. que je raconte. Je vous laisse vous en dire
un mot. C'est l'encyclique du pape sur la question de l'IA qui vient de paraître et qu'on a publié donc, aux éditions de la 11e heure, que j'ai l'honneur de diriger voilà, avec une postface de Jean-Pierre Dupuis notamment, qui est un grand scientifique. Voilà.
Eh bien, merci. Eh bien, je vous dis, je rends l'antenne et je vous dis bonsoir et merci beaucoup à vous deux.
Vous venez d'entendre Les Pâturages du Ciel, dirigé aujourd'hui par Tanguy de Vienne, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 13 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.